Messie, acordasse com a experiência.
Merci. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus. Je suis très ému de voir tant de monde venu pour écouter des conférences philosophiques et politiques. Je voudrais d'abord remercier le maire, Olivio Dutra, le maire adjoint, Terzo Junro, le secrétaire, Luis Paolo de Pilavares, et tous ceux assez nombreux qui ont travaillé pour contribuer au succès de ces journées, et tout particulièrement celui qui a été le plus instrumental, mon ami le professeur Denis Rosenfeld. L'exposé de demain sera politique. Aujourd'hui, il sera philosophique, et j'espère montrer, et j'espère que vous montrerez avec moi, que la philosophie n'est pas seulement une affaire de spécialistes. Le thème « Création historique et institution de la société » c'est finalement un thème qui concerne les êtres humains, parce qu'il n'y a d'histoire et de société que pour les êtres humains. Quand on parle de société animale ou d'histoire de la Terre, c'est des expressions métaphoriques. Dire que nous allons parler de l'être humain, ça veut dire que nous allons nous occuper d'anthropologie, non pas bien sûr dans le sens physiologique ou biologique, mais dans le sens philosophique. Anthropologie, c'est le logos qui porte sur l'anthropos, c'est-à-dire le discours qui porte sur l'être humain. Je voudrais faire ici une parenthèse pour ne pas subir le sort de quelques héros de la mythologie grecque, parce qu'en grec on dit anthropos, ce qui est tout à fait différent de aner et gune, comme en latin on disait homo, qui est autre chose que vir ou et femina. Homo anthropos, c'est l'être générique, l'être humain. Mais en français et en anglais, et malheureusement aussi, comme je viens de l'apprendre en portugais, oui, on dit homo, homme, aussi bien pour l'être générique que pour l'homme masculin. Alors si jamais je me trompe, au lieu de dire être humain, je dis homme, je vous prie de ne pas m'accuser de phallocratisme. Anthropologie, donc, discours sur l'homme, réflexion, interrogation, qui porte sur ce qu'est l'homme. Pourquoi cette recherche est philosophique? D'abord parce qu'on discute de la connaissance de quelque chose, et ça c'est déjà en soi une question philosophique, parce que contrairement à ce que croient les gens, surtout aujourd'hui à l'époque du scientisme et du positivisme, la connaissance est toujours une énigme et même un labyrinthe d'énigmes. Car on a ici un savoir de l'homme, génitif objectif, savoir qui porte sur l'homme, mais qui est aussi un savoir de l'homme, génitif subjectif. C'est l'homme qui essaye, comme sujet, qui essaye de connaître l'homme comme objet. Et cela nous conduit immédiatement à une première détermination de l'être humain, connue et classique. L'être humain est de tous les êtres qu'on connaît, le seul qui vise un savoir en général, et un savoir de lui-même en particulier. On peut même dire qu'ici, le particulier précède le général. Car si nous nous demandons qu'en est-il du savoir en général, puisque le savoir n'existe que par l'homme et pour l'homme, nous devons d'abord nous demander qu'en est-il du savoir de l'homme, puisque c'est l'homme qui sait ou ne sait pas, et cette question préalable est elle-même une partie de la question que savons-nous de l'homme, et est-ce que ce que nous savons nous permet d'affirmer que l'homme peut connaître quelque chose en général et quelque chose sur lui-même en particulier. Je pense que vous avez noté qu'ici la question se redouble sur elle-même, c'est-à-dire on se demande qu'en est-il du savoir, mais le savoir est toujours un savoir de l'homme, donc il faut répondre à la question est-ce que l'homme peut savoir, et pour répondre à cette question, il faut savoir quelque chose de l'homme. Mais on a commencé par se demander qu'en est-il du savoir, peut-on savoir quelque chose. Or, ce redoublement, qui peut paraître comme un cercle vicieux, on pourrait dire qu'on tourne en rond, qu'on se mord la queue, c'est précisément le cercle de la réflexion et de la philosophie. C'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire concernant la généricité de l'homme ? J'évite exprès le terme universalité pour des raisons que vous comprendrez tout de suite. Alors ici nous rencontrons immédiatement une particularité tout à fait spécifique qui est que dans le domaine humain, nous n'avons pas la même relation que dans les autres domaines entre l'universel ou l'abstrait et le particulier ou le concret. N'importe quel objet physique ou même biologique n'est qu'un exemplaire, un cas de détermination générale de son espèce ou de son genre. s'il a des singularités, ces singularités sont à la fois accidentelles et statistiques. Il n'en est pas ainsi dans le domaine humain. Bien entendu, dans le domaine humain, il y a aussi de l'accidentel et du statistique, mais ici, la singularité n'est pas accidentelle, elle appartient à l'essence de l'être. C'est chaque fois la singularité d'un individu ou la singularité d'une société particulière qui font qu'ils sont cet individu et cette société et qui traduisent leur essence. Est-ce que maintenant nous pouvons penser cette relation originale qui fait que chaque homme ou chaque société sont ce qu'ils sont, non pas malgré leur singularité, mais en fonction de cette singularité? Oui. Autrement dit, que cette singularité forme l'essence de chaque être humain et de chaque société, et cependant, malgré cette singularité, ni l'être humain particulier, ni la société particulière ne cesse d'appartenir à ces genres que sont l'humanité ou l'être humain, sans quoi on ne pourrait même pas les nommer homme ou société, car autrement on pourrait même pas les appeler comme ça. Avant de répondre à cette question, il faut écarter une réponse qui apparaît aussitôt, qui n'est qu'à moitié satisfaisante et qui manque l'essentiel. Il n'y a eu qu'un peuple, ou il n'y a qu'un peuple hébreu, ou une société romaine ou brésilienne, et pas deux, et il n'y en aura jamais plus et jamais ailleurs. Ce qu'ils sont ou qu'ils ont été, on ne pourrait pas le fabriquer avec des éléments qu'on prendrait à gauche et à droite. On ne pourrait pas fabriquer la société romaine en prenant des Nambikvaras, des New Yorkais et des Brésiliens. Alors, on pourrait dire, et ça a été dit, qu'en regardant les Romains ou les Hébreux ou les Grecs ou les Brésiliens, nous apprenons simplement des possibilités de l'être homme qui existent en elles-mêmes, mais qui sans cette réalisation resteraient inconnues. En partie, c'est comme ça. Si par exemple quelqu'un comme Socrate a existé, ça veut dire que être Socrate est une possibilité pour l'être humain. Et si Hitler a existé, ou Staline, ça veut dire que être Hitler ou Staline est également une possibilité pour l'être humain. Et si les Aztèques pratiquaient les sacrifices humains, c'est une possibilité pour une société humaine. De même que s'il y a des sociétés qui au moins proclament l'égalité et la liberté des individus, ça veut dire que c'est là une possibilité pour une société humaine. Donc, c'est en partie vrai. Mais cette idée, quand on va jusqu'au fond, est problématique et finalement insuffisante. Est-ce que nous pourrions jamais soutenir que cet immense éventail de singularités, de sociétés et d'individus qui se juxtaposent et qui se succèdent ne fait que réaliser des possibles de l'être humain qui seraient prédéterminés depuis toujours? Est-ce que nous oserions dire que Socrate, puisque j'en ai parlé, ou Tristan et Isolde, ou Auschwitz, ou la critique de la raison pratique, ou le goulag, réalise des possibilités de l'être humain au même sens que tout triangle que je pourrais définir réalise les possibilités qui sont déjà contenues dans l'essence du triangle? Est-ce que nous pourrions jamais exister qu'il existe un catalogue illimité, un répertoire interminable, où sont tenus en réserve tous les types d'individus et de sociétés qui ont existé, qui existent et qui existeront jamais, ou bien qu'il existe une loi générale qui détermine d'avance les possibilités de l'être humain, possibilités qui seraient alors déployées dans l'histoire, soit de façon aléatoire, soit de façon systématique. Cela peut paraître étrange, mais il y a eu deux tendances importantes dans la pensée européenne moderne qui ont soutenu cela. C'est les structuralistes d'un côté et les hegeliens de l'autre. Mais il me paraît facile de montrer l'absurdité de cette idée. Supposons que les structuralistes avaient raison. Et supposons, comme l'a dit Claude Lévi-Strauss, que les différentes sociétés humaines ne sont rien d'autre que les combinaisons différentes d'un petit nombre d'éléments invariables. Mais s'il en était ainsi, on pourrait demander aux structuralistes de produire, séance tenante, ici et maintenant, tous les types possibles de sociétés humaines. De même que si vous avez un alphabet, vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles des 24 ou 26 lettres que ça contient. Ou comme un géomètre démontre qu'il y a 5 polyèdres réguliers et seulement 5. Cela n'a jamais été fait pour la société, pour l'histoire, et j'affirme que cela ne peut pas être fait. Maintenant, si les Hegeliens avaient raison, ne te fâche pas, ils devraient être capables d'exhiber de façon rigoureusement systématique la nécessité de la succession historique des divers types de sociétés, et il devrait être capable de la prolonger de sorte qu'elle couvre tout l'avenir possible. Or, quand on lit Hegel, on voit que la première tâche ne peut être accomplie que par l'utilisation de monstrueux ciseaux de tailleur, et aussi d'une énorme aiguille qui coupe certaines parties de l'histoire humaine, colle ensemble d'autres parties, et qui aboutit par exemple, entre autres, à l'idée que l'islam précède le christianisme. Pourquoi l'islam précède le christianisme ? Ben, parce que l'islam est une forme de religion inférieure au christianisme. Hegel est chrétien, bien sûr. Si Hegel avait été musulman, sa tâche aurait été plus facile. Comme il est chrétien, et qu'il sait quand même que le Christ est né à l'année zéro, soi-disant, qu'il n'existe pas, et que Mohammed est venu au 6e siècle, 7e, alors il est obligé d'affirmer que logiquement l'islam précède le christianisme, et que ça se vérifie historiquement parce que, tenez-vous bien, le christianisme ne devient vraiment christianisme qu'à partir du moment où il est germanisé. C'est-à-dire à partir du moment où Charlemagne, par le fer, le feu, le sang, oblige les Saxons à devenir chrétiens. On peut remarquer en passant que Hegel était allemand. Donc le seul christianisme vrai, c'est le christianisme allemand. Donc le christianisme vient après l'islam, ce qu'il fallait démontrer. Mais aussi, comme Hegel, évidemment, ne peut pas produire toutes les formes futures de l'histoire, il est nécessairement conduit à la nécessaire affirmation de la fin de l'histoire, affirmation absurde, évidemment, mais nécessaire parce que cette fin de l'histoire, ce n'est pas une opinion personnelle de Hegel, ce n'est pas une question d'humeur. Un jour, Hegel était fâché, il a décidé que l'histoire s'est terminée aujourd'hui, mais elle est à la fois la présupposition de son système, puisque son système, c'est le système du savoir absolu, et le savoir absolu ne peut apparaître qu'à la fin de l'histoire, et il allait de la nécessaire conclusion aussi. Alors, le coup de grâce à cette idée de la fin de l'histoire a été donné par Hegel lui-même, lorsque dans la philosophie de l'histoire, il envisage à passant le fait que le temps ne s'arrête pas, et alors, dit-il, bien sûr, après la fin de l'histoire, il y aura toujours du travail empirique à faire. N'est-ce pas ? Alors, par exemple, ce qui s'est passé entre 1830 et 1990, tout ce que vous voulez, la naissance du mouvement ouvrier, la musique de Wagner, l'impression,